CFORadio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Martier et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFORadio.tv. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous savez que vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CFORadio-TV. À mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Damien Potvin, président de JPA Group, présent dans 80 pays, et Thierry de Pantou, président de Strafi, filiale d'EPSA. Bonjour messieurs.
Bonjour Richard.
Aujourd'hui nous recevons Olivier Gouiran, CFO d'Egis. Bonjour Olivier.
Bonjour Richard.
Alors votre père était dans l'armée, donc vous avez beaucoup voyagé, vous êtes né à Djibouti, vous allez voir du pays comme on dit, et vous aimez les chiffres et c'est par ce biais que vous en êtes venu à la finance forcément. Ça devenait concret, c'est ça la finance ?
Ça devenait la capacité d'une modélisation, de projection de différents éléments de ce qu'était l'entreprise. Effectivement, je me suis pris au jeu, d'abord dans le domaine des infrastructures. Je suis passé par d'autres secteurs après et j'y suis revenu aujourd'hui avec Egis.
On va y revenir. Alors après Polytechnique, c'est l'administration. Vous rejoignez le ministère des Finances. Pour y faire quoi ? Ça fait à la fois rêver et peur.
C'est effectivement pour y faire plein de choses comme on peut le faire au ministère des Finances. D'abord m'occuper de budgétaire à la direction du budget, donc du budget d'État dans des problématiques de recherche et d'innovation notamment, puis après de sociétés dans lesquelles l'État détient des participations, est actionnaire au sein de l'agence des participations de l'État, ce qui m'a amené un peu plus tard à conseiller le ministre de l'époque sur ces sujets-là. Donc beaucoup de sujets à un moment passionnant puisque c'était entre 2007 et 2011, donc entre les deux il y a eu la Global Financial Crisis qui nous a un petit peu occupés.
Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, nouveau ministère ensuite, voisin au sein du cabinet du ministre de l'économie, il s'appelait François Baroin. Est-ce que c'est là qu'on peut faire bouger les choses ou non ?
Oui, tout à fait. On peut suggérer beaucoup de choses. On peut appuyer des politiques publiques. Il y a dans ces moments difficiles, comme ça a été le cas avec le Covid, des politiques publiques qui sont assez supportives, en mauvais franglais, de l'économie et des entreprises. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont conçues dans ces endroits-là. Et j'étais fier et content de pouvoir y participer à ma mesure.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi un peu frustrant ? Il n'y a pas des moments où on se dit « Ah, on aimerait bien le faire, mais on ne peut pas pour diverses raisons ».
Alors, on est effectivement dans la politique publique et en ce qui me concerne, arrivé un moment, on a, en tout cas pour ce qui m'attirait dans l'entreprise, l'envie d'être un peu plus aux manettes, les mains dedans et la bougeotte que j'avais héritée du paternel qui allait de pays en pays m'a rattrapé et c'est comme ça qu'effectivement j'ai souhaité rejoindre le secteur privé.
En tout cas, vous avez un parcours très cohérent, financement de projet, financement public, international. Vous avez une préférence malgré tout pour tout ça, entre tout ça ?
Non, et c'est pour ça que je me retrouve chez Egis aujourd'hui, parce qu'on fait précisément tout ça, de l'international, du financement de projet, du corporate, des problématiques de haut de bilan, de transformation.
Alors allez, dites-nous ce que c'est Egis, allez, on y va.
Ah, pardon.
Tout le monde ne connaît pas, alors allez.
Je précipite l'agenda. Egis, c'est un groupe de plus d'un milliard d'euros, filiale aujourd'hui de la Caisse des dépôts, qui détient 75% de la société, et qui est un acteur de l'ingénierie et de l'exploitation des infrastructures. On retrouve Egis dans la conception d'infrastructures comme le Grand Paris, par exemple, dans le rail, également dans des ouvrages type des barrages en Afrique. On est présent partout dans le monde, puisque le chiffre d'affaires est à 40% en France et à 60% à l'étranger.
Effectivement. Alors, combien de salariés, tiens
juste 15 000 personnes.
Ah oui, quand même. Allez, Thierry.
Oui, donc Olivier, vous avez commencé dans le financement de projets chez Vinci. Finalement, aujourd'hui, vous revenez un peu dans ce métier de base, parce que Egis, il y a toute une partie financement de projets, donc vous regardez ça de très près et vous êtes à la manœuvre sur le financement de projets encore ou vous êtes relativement loin de ça maintenant ?
Tout à fait, tout à fait. Alors, je parlais de l'ingénierie, je vous ai dit, on est aussi dans l'exploitation d'infrastructures et également dans la détention de concessions. Donc, notre modèle opérationnel nous amène à prendre des participations dans des concessions autoroutières, aéroportuaires, par exemple. Et généralement, ce sont des projets qui se mettent en place sous forme de SPV, de sociétés dédiées, et donc avec un package de financement type financement de projet. Donc, ça fait totalement partie de la vie et de l'ADN d'Egis, et bien sûr, la direction financière est impliquée dans ces financements-là.
Et alors, il y a un petit côté RSE maintenant, j'imagine. Il y a de nouvelles choses qui interviennent dans les financements de projets.
Alors, on a effectivement, alors on le voit sur le marché, plusieurs choses. D'une part, une prise de conscience de cette problématique-là par la planète finance. Pour être assez franc, de la part des GIS, ça l'est depuis longtemps, puisqu'on est acteur de développement d'infrastructures, de conception d'infrastructures, qui depuis plusieurs années ont pris le virage de la transition énergétique, de la limitation de l'impact sur l'environnement. Et donc, c'est vraiment très, très présent dans ce que conçoit le groupe et fait le groupe. Et la finance aussi se développe de plus en plus dans cet angle-là, avec des financements qui sont sensibles également à la capacité qu'on a, par ses propres critères ou à travers l'impact que nos projets ont, de contribuer à cette prise de conscience et à ce développement d'infrastructures plus vertes.
Alors, je vois qu'il y a 63%, je crois, de votre chiffre d'affaires qui est à l'international.
Tout à fait.
Dans des pays qui sont souvent assez lointains. Est-ce que ça ne pose pas quand même des problèmes de risque pays, de risque de change, des problèmes financiers un peu compliqués ?
Ça en pose beaucoup. Ça impose beaucoup. On est dans des géographies lointaines, effectivement, en Asie-Pacifique, par exemple, dans des pays comme l'Indonésie, les Philippines, en Afrique. On a fait beaucoup de projets en Afrique, en Amérique latine. On se retrouve soit dans des projets de type financement par bailleurs internationaux, qui évidemment ne posent pas ce genre de problèmes, ou de financements plus locaux, avec une exposition au risque pays directement, et donc avec toute une politique interne très sérieuse d'examen de ces dossiers, de mise en place d'assurance risque pays, et puis rien ne remplace le suivi opérationnel et le travail à faire auprès des clients pour poursuivre les paiements dans ces situations-là.
Si je reviens sur le personnel, il y a donc 15 000 personnes, c'est ça ?
Tout à fait.
Il y avait 25% de des GIS qui étaient détenus par les salariés ou par le...
Une vingtaine de pourcents par le management, 5% par le FCPE. Donc effectivement, c'est peut-être un animal un peu particulier dans le panorama économique français, puisque c'était détenu par la Caisse des dépôts à 75% et par le management et les salariés pour le reste. Je dis c'était, puisque effectivement, EGIS, c'est l'actionnaire d'EGIS, la Caisse des dépôts, a souhaité ouvrir le capital de la société. Donc est en train de, on est en processus de cession du contrôle de la société, afin de trouver un actionnaire qui soit capable d'accompagner le développement du groupe à l'international. C'est un groupe historiquement français qui s'est développé, on l'a vu, relativement bien à l'international, mais dans un secteur qui est en pleine consolidation et qui, du coup, a besoin de fonds propres et de ressources supplémentaires pour prendre part dans la course à la consolidation au niveau mondial dans les premier. Notre objectif, c'est d'être d'aujourd'hui à 1 milliard, passé à 2,5 milliards à horizon 5 ans, donc avec une vraie stratégie et de croissance endogène et de croissance externe. Et pour ça, il nous faut des fonds propres.
Damien.
Bonjour Olivier.
Bonjour Damien.
Question un peu, je pense un peu guerrier, parce que pour arriver en 2021, arriver à ce poste avec 2 milliards de chiffre d'affaires, près de 16 000 collaborateurs en plein Covid, comment ça se passe, la prise de poste ?
Alors, il faut effectivement être un peu guerrier. Dans ma jeunesse, j'ai eu l'occasion de passer un an dans les commandos marines. Je pense que j'en ai hérité cet esprit. Puis après, je suis passé, je parlais de la crise financière un peu plus tôt, puis dans le secteur de l'oil and gas, qui n'a pas été très, très calme ces derniers temps. Et comment on se lance dans ce plan stratégique ? Déjà convaincu par une équipe de management. Donc il y a une équipe de management, un mélange du management historique et d'un nouveau directeur général et d'une équipe qui l'entoure, qui a conçu ce plan qui repose vraiment sur des fondamentaux solides. Encore une fois, j'en parlais, les fondamentaux de notre secteur sont l'urbanisation, sont le développement des populations au niveau mondial, et puis cette soif d'infrastructures vertes. Et ça, c'est beaucoup de projets, beaucoup d'activités pour un groupe comme le nôtre qui peut compter sur 5% de croissance, je dirais, annuelle en moyenne sur les 5 prochaines années. Et puis, par-dessus ça, on prévoit une croissance externe soutenue. D'autres sociétés dans des secteurs plus technologiques font beaucoup d'acquisitions. C'est vrai aussi dans le monde de l'infrastructure et de l'ingénierie, avec le projet d'acquérir sur les 5 prochaines années l'équivalent de 340 millions de chiffre d'affaires, donc disons 30% de notre chiffre d'affaires actuel. Et pour ça, c'est une organisation qui est mise en place, des ressources pour identifier ces cibles et puis pour les intégrer, parce que dans ces métiers-là, et j'ai pu le voir dans ma carrière, l'exécution parfois est quasiment plus importante que l'identification des cibles. Et c'est sur ce sur quoi on travaille.
Alors Olivier, vous avez piqué ma curiosité tout à l'heure avec un terme qui est assez rare aujourd'hui, c'est la SPV. Et c'est des concepts qui sont très utilisés par votre actionnaire principal. Vous pouvez nous en dire un peu l'intérêt aujourd'hui ou pas ?
Alors, l'intérêt aujourd'hui, dans le monde des infrastructures et du financement de projets, les special purpose véhicules existent depuis longtemps et permettent d'avoir précisément sur ce type de société et de projet des financements sans recours sur l'actionnaire. Donc, le principe est vraiment de mettre en place une communauté d'actionnaires et de prêteurs autour d'un projet bien identifié, dont on identifie, on détourne les risques précisément et on met en place un financement structuré, du coup, adapté à ces situations. Effectivement, c'est très présent dans le monde des infrastructures, ça peut se développer dans d'autres secteurs, j'imagine.
D'accord. Et donc là, vous les utilisez pour des projets, c'est-à-dire sur les chantiers, entre guillemets, que Egis va être engagé pour gérer, ou aussi pour des croissances externes ou...
Alors nous, on l'utilise beaucoup sur des projets d'infrastructures, typiquement autoroutières ou autres projets dans la mobilité de type plutôt de smart parking. Et donc, c'est des projets dans lesquels on met en place ce type de structure, oui, tout à fait.
D'accord. Bon, on croit comprendre qu'il va y avoir une frénésie à la croissance endogène et externe, donc ça va être plutôt intéressant. Est-ce que les normes et les contraintes, enfin les normes internationales dans lesquelles vous allez mettre les mains, sont une contrainte aujourd'hui pour vous ou quelque chose pour rationaliser, vous rassurer ?
Alors, frénésie n'est peut-être pas le bon terme. C'est une ambition et effectivement, elle est élevée. Maintenant, on est sur ce marché qui est très atomisé, avec beaucoup de cibles potentielles. Et le challenge pour nous est vraiment de se structurer en interne, ce que nous faisons pour pouvoir exécuter ce plan. La question des normes internationales, on est dans des métiers qui sont pour la partie ingénierie relativement normés, effectivement structurés avec il faut pour pouvoir intervenir sur des grands ouvrages avoir les qualifications requises, pardon. Et c'est pas une contrainte, c'est à la fois une opportunité puisque ces qualifications on les a soit dans d'autres pays sous forme de qualifications à pouvoir transposer de référence, soit localement à travers les sociétés qu'on acquiert. Et plus les projets gagnent en taille, plus les références sont transposables d'un pays à l'autre, et c'est tout l'intérêt de cette croissance externe. On ne fait pas de la croissance pour faire de la croissance, mais parce que les marges sur les grands projets ne sont pas les mêmes, et la capacité qu'on a une fois qu'on a développé le tramway de Doha ou aidé la société du Grand Paris sur le Grand Paris à gagner d'autres projets de cette ampleur-là est réelle une fois qu'on a cette emprise au niveau mondial.
Olivier, je le disais au début, vous avez beaucoup voyagé, mais je crois que c'est la Mauritanie qui vous a le plus marqué, vous, personnellement.
Ah oui, tout à fait. Vous faites référence à cette expérience relativement jeune que j'ai pu avoir en vivant en Mauritanie et en ayant eu l'occasion de faire quelques voyages dans le désert et de m'être retrouvé face à des panoramas complètement époustouflants qui effectivement m'ont marqué et m'aident à certains moments à retrouver cette paix intérieure dont on a besoin dans nos vies.
L'impression d'être un peu sur Mars. Et enfin, vous soutenez, je crois, une association qui aide les enfants des rues de Manille.
Tout à fait. J'ai eu l'occasion dans ma carrière de vivre en Asie, à Singapour, d'avoir couvert la région et d'avoir fait la connaissance, d'avoir découvert à cette occasion-là cette association ANAC TNK qui vient au secours des enfants des rues de Manille. Et voilà, c'est une cause aussi que je porte.
On mettra le lien évidemment. Merci Olivier, merci également à vous Damien et Thierry. Fin de ce numéro de CFORadio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain 14h précise pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de CFORadio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.